L'Association pour la communication en terre de Lorraine est née en 1984 de la volonté de jeunes agriculteurs et d'enseignants du Toulois de proposer un outil innovant au service des habitants. Elle a pour objet de créer et gérer des outils de communication au service du développement rural et local, notamment dans le champ de l'éducation populaire. Elle porte un service radiophonique nommé Déclic FM. Cache-cache Micro, c'est le programme emblématique de Radio Déclic. L'outil radio est ici envisagé comme un outil éducatif et ludique qui permet l'acquisition de nombreuses compétences et de nombreux savoirs en lien avec les programmes de l'éducation nationale. Créé en 1986, il rassemble aujourd'hui près de 50 classes du territoire qui produisent une centaine d'émissions par an et composent l'association Cache-Cache Média. À l'occasion du 55e congrès ICEM Pédagogie Freinet, Radio Primitive vous invite à découvrir deux émissions réalisées et diffusées sur Radio Déclic, dans le cadre de Cache-Cache Média, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école avec les écoliers du Toulois.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Déclic au 87.7, 103 et 89.6 et c'est l'heure de retrouver les enfants du Toulois avec leurs émissions Cache-Cache Micro. Et aujourd'hui, un coucou mag. Un coucou mag, mais avant de commencer l'émission de Panier des Rêves-Marines, eh bien nous avons dans les studios 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5 enfants qui arrivent du Toulois, bien sûr, et ils vont se présenter. Allez, je vais commencer par celui de ma droite. Il doit s'appeler... Bah, il va se présenter lui-même.
Je m'appelle Luc. Je suis à l'école de Fougue du Luton.
Voilà, Fougue le Luton. Voilà, il y a plusieurs écoles primaires à l'école à Fougue. Ou il n'y a que Fougue le Luton.
Oui, je crois.
Tu crois, d'accord. Eh bien, on va passer maintenant au second.
Bonjour, je m'appelle Dorian. Je suis à l'école du Luton, à Fougue.
D'accord, et ta camarade à côté ? Vas-y, tu t'approches du micro, vas-y, tu parles dedans.
Bonjour, je m'appelle Léna, je viens de l'école du Luton de Fougue.
Bonjour, je m'appelle Emma, je suis à l'école du Luton à Toul.
Bonjour, je suis Luna, je suis à l'école du Luton à Fougue.
Eh bien, merci à vous cinq, Luna, Léna, Emma, Elena, et Dorian et Luc. Et nous allons parler, enfin, pas moi qui vais parler, mais les enfants de Panier derrière Varine. Vous connaissez ce village ? Panier derrière Varine ?
Non.
C'est tout près de Fougue, pourtant. Non, c'est pas tout près de Fougue. Fougue ? Oh, c'est pas loin, c'est juste derrière la bosse. Derrière Fougue, il y a une grosse bosse, et derrière la grosse bosse, il y a Panier derrière Varine. Là, vous dit rien. Eh bien, on va écouter leur émission tout de suite.
Salut les auditeurs, il est 13h35.
Cette semaine, c'est la semaine des médias et de la presse à l'école.
À cette occasion, lundi, les élèves de CM1 de Panier derrière Varine sont venus découvrir Radio Déclic.
Maëlle, Emma, Sylvestre, Nathanaël et Jules ont eu la chance d'interviewer Mathieu Vidard qui anime La Tête au Carré sur France Inter.
Donc aujourd'hui, pas de coucou magre, mais la diffusion de l'interview de Mathieu Vidard.
Bonne écoute.
À l'occasion de la semaine de la presse à l'école, les élèves de CM1 de l'école de Peigne et derrière Barine ont pu poser quelques questions à Mathieu Vidard, l'animateur de La Tête au Carré sur France Inter et de Science Grand Format sur France 5.
Bonjour Mathieu Vidard, on est les CM1 de Panier derrière Barine et on va vous poser quelques questions. Et d'abord, on va vous dire quelque chose.
Joyeux anniversaire Mathieu Vidard. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mathieu Vidard. Joyeux anniversaire.
Ouais, merci.
Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil d'y avoir pensé, en tout cas.
Quel domaine préférez-vous en sciences ?
Alors, Maëlle, bonjour. En tout cas, merci pour ta question. Alors, quel domaine je préfère en sciences ? Il y en a plusieurs. Alors, moi, j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'astronomie, c'est-à-dire l'étude des planètes, l'étude de l'origine de l'univers, savoir comment tout ça a commencé, comment se sont formées justement les galaxies, les planètes qui nous entourent, comment l'univers est né, le Big Bang, tout ça, ce sont des choses dont vous avez forcément entendu parler. Et moi, ça me passionne, j'adore ça. Et puis, il y a d'autres domaines qui m'intéressent aussi beaucoup. Tout ce qui concerne aujourd'hui, par exemple, l'étude de l'intelligence ou des comportements des animaux. Alors, ça s'appelle l'éthologie. Et ça, c'est un domaine de recherche très intéressant parce qu'on s'aperçoit que tous les animaux, quels qu'ils soient, autour de nous, sont non seulement des êtres sensibles, mais sont également des êtres vivants qui sont doués d'intelligence, et on peut même dire que ces animaux ont des personnalités tout à fait particulières selon l'espèce, évidemment, mais on peut parler à la fois d'une fourmi, d'un chimpanzé, d'une baleine, d'un dauphin, ou même si on va chercher dans les micro-organismes comme les bactéries, qui sont des microbes, donc tout petits, on trouve des formes d'intelligence. Et ça, c'est un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais il y en a plein, parce que la science, c'est passionnant. Alors, vous me demandez ce qui m'intéresse, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'est vrai que tous les jours, à 2h de l'après-midi, j'ai la chance de recevoir des scientifiques qui viennent tous me parler de leurs recherches et de leur domaine de travail, et que ben, ça change tous les jours, et que quelle que soit la discipline, il y a toujours quelque chose d'intéressant, de curieux à apprendre, et c'est ça qui me plaît dans ce métier.
Et du coup, en termes de caractère, vous vous rapprochez de quel animal ?
Je pense que je fais un bon singe, un bon chimpanzé, par exemple. Je pense qu'on peut trouver des traits de caractère entre moi et le chimpanzé.
Est-ce que vous préférez travailler pour la télé ou la radio ?
Alors, ben, j'aime bien les deux, pour des raisons différentes, évidemment. La radio, j'adore ça parce que ça fait très très longtemps que j'en fais. Et je trouve que c'est très agréable de pouvoir avoir tous les jours le temps de discuter avec un scientifique au micro. Donc, on a une heure d'émission tous les jours, et ça, c'est assez rare dans ce domaine de la science. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que du coup, les chercheurs, ils ont du temps pour parler de ce qu'ils font, nous expliquer un petit peu la façon dont ils ont trouvé et comment leurs recherches se sont illustrées. Alors, ça me plaît beaucoup. Et puis, la télévision, c'est un petit peu différent parce que le temps est beaucoup plus court en télévision. En général, il faut aller beaucoup plus vite dans ce qu'on fait. Mais j'aime bien aussi le contact avec la caméra, et puis le travail sur les documentaires, c'est-à-dire les films qu'on montre, parce que là, du coup, on peut montrer la science en images. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça, on peut pas le faire en radio. La radio, elle nous permet d'imaginer les choses, donc elle fait quand même travailler notre tête et notre imagination, mais la télévision, elle nous emmène sur le terrain, là où se fait la science. Donc ça, c'est très très bien. Et à l'époque où j'allais beaucoup tourner à l'extérieur, j'ai fait des très très jolis voyages qui m'ont permis d'aller dans le monde entier, rencontrer d'ailleurs beaucoup beaucoup d'animaux, parce que c'était une série qui s'intéressait en particulier justement à l'intelligence animale. Et donc, voir les choses, comment elles se font directement sur place, dans les pays où vivent les animaux dont on parle, ça c'est absolument passionnant. Donc c'est vrai que mon cœur balance entre les deux, et j'aime autant la radio que la télévision.
Quel livre avez-vous préféré écrire ?
Quel livre est-ce que j'ai préféré écrire ? Alors, il y en a eu, je n'ai pas écrit beaucoup de livres, j'en ai écrit 4 ou 5, mais j'ai bien aimé justement un livre qui s'appelait « Dans les secrets du ciel », parce que je suis allé à la rencontre justement des astronomes, des astrophysiciens qui travaillent sur le ciel, hein, sur les planètes, sur les trous noirs, sur les origines de l'univers, et donc ça m'a permis d'aller là aussi dans des endroits comme les télescopes géants qui se trouvent très très haut en altitude, par exemple au Chili, où vous avez des télescopes qui sont à 5000 mètres d'altitude, donc c'est encore plus haut que le Mont Blanc. Et s'ils sont construits aussi haut, c'est qu'ils permettent d'observer le ciel dans des conditions optimales. C'est-à-dire que le ciel, n'est pas dérangé par la pollution lumineuse. Et donc, on voit la Voie lactée, les étoiles briller comme nulle part ailleurs au monde. Et donc, j'avais fait des voyages dans ces endroits qui permettent d'étudier justement les étoiles. Et je garde un très bon souvenir de ça. Et du coup, je l'ai raconté dans ce livre. Et donc, quand je regarde ce livre, ça me rappelle plein de souvenirs de voyages et de très belles choses que j'ai pu voir dans ces lieux qui sont des lieux d'observation pour les scientifiques.
Pourquoi vous êtes-vous tourné vers les sciences plutôt que la littérature ?
Alors, je vais te dire que ça a été le plus grand des hasards, parce que quand j'avais votre âge à l'école, j'étais nul en sciences, mais très très mauvais. J'ai même eu 1 sur 20 au bac en maths, donc je ne vous le souhaite pas, j'espère que vous serez plus doué que moi. Mais c'était vraiment pas terrible. Je sais pas combien vous avez de moyenne dans les matières scientifiques. Ça va, vous êtes bon ou pas, vous ?
Bon, en science.
Très bon,
oui.
Moyen, moi.
Il y en a qui ont l'air un petit peu focus, ouais. Quand même.
Moi, c'est très bien. J'adore.
C'est quoi votre moyenne en général ? Dites-moi la vérité.
On n'a pas de moyenne pour le moment. C'est toujours sur les lettres comme TB.
Moi, j'ai toujours des B-.
B-, c'est bien ?
Moi, j'ai des TB plus, des TB.
Ah, TB, donc très bien, ouais.
Moi, j'ai TB plus, moi.
Est-ce qu'il y en a qui ont des A ?
Non, on n'a pas ça.
Non, il n'y a pas de A.
Non, il y a AS.
Alors, la pire des notes, c'est quoi alors ? C'est D, c'est E ?
F-.
Eh ben moi, en maths, j'étais F-, vous voyez. Donc, j'étais perdu à tout jamais pour les sciences. Et donc, c'est le plus grand des hasards qui a fait qu'un jour, après avoir fait déjà beaucoup, beaucoup de radio, il y a le directeur de la radio où je travaille, France Inter, qui m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que tu n'aurais pas envie d'animer une émission scientifique tous les jours à 14h ?» Et là, je me suis dit qu'il était fou, qu'il était tombé sur la tête et que je n'y arriverais jamais parce que justement, je me souvenais de toutes ces années à l'école où j'étais si mauvais en maths et en physique aussi d'ailleurs. Et donc, j'ai eu assez peur. Je me suis dit que ça allait être très, très, très compliqué. Et puis finalement, je me suis dit quand même que ça devait être très intéressant parce que les scientifiques sont des gens intéressants, des gens passionnants. Et puis, je me suis dit, voilà, il fallait se lancer dans l'aventure et que faire une chose à laquelle je n'avais jamais pensé était peut-être une occasion tout à fait charmante et amusante de m'emmener vers des contrées ou des continents un petit peu étranges et très lointains pour moi. Donc, ça m'a plu, finalement. Et avec mon équipe, on a beaucoup, beaucoup travaillé au début. On a beaucoup lu. C'est ça qui nous a permis d'essayer de nous mettre à niveau. On a beaucoup lu de documentation, de livres scientifiques. Et puis, on s'est lancé. Voilà, on est allé comme ça à l'aventure. Et ça s'est très bien passé. Et c'est quelque chose, moi, que je retiens parce que finalement, je pense que tout le monde est capable de faire de la science. La preuve, c'est que moi, j'en ai fait alors que j'étais très mauvais élève. Et tout le monde s'intéresse à la science. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ces matières qui parfois peuvent impressionner, faire peur, et qu'au contraire, quand on ne serait-ce qu'on laisse son oreille ouverte et qu'on est curieux, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et ça, c'est ce que la science m'a appris. Et je suis très heureux d'avoir fait ça, parce que jamais j'aurais pu imaginer découvrir autant de choses tous les jours. Et c'est comme un petit peu ouvrir des fenêtres dans tous les domaines du monde. Et ça me passionne, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, il y a plein de choses à apprendre dans le domaine scientifique, des choses qui nous concernent tous les jours dans notre vie. Et vous, je suis sûr que vous avez aussi des questions de scientifiques qui vous intéressent. Et voilà, donc c'est le plus grand des hasards qui a fait que j'ai abandonné plutôt le terrain littéraire, où j'avais fait des études de langue, parce que moi, ce que j'aimais à l'école, c'était les langues vivantes. Ça me plaisait énormément d'apprendre l'espagnol, l'italien, l'anglais, et même les langues mortes comme le grec. Bon, j'ai abandonné ça et c'est la science qui est venue quasiment frapper à ma porte et je ne le regrette pas parce que ça me rend très très heureux tous les jours.
Avez-vous aimé travailler avec Trianne ?
Vous connaissez Trianne ?
Oui.
C'est vrai ? Alors Trianne, c'est un groupe de musiciens bretons. Et est-ce que vous connaissez des chansons de Trianne ?
Non.
J'entends le loup, le renard à la belette.
Ah si.
Vous connaissez ça ? J'entends le loup, le renard à la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ça vous dit quelque chose, ça ?
Oui, je connais ça.
Voilà. Alors, c'est ce groupe qui a chanté ça. Et comme moi, j'habitais à Nantes à l'époque et que Trianne était un groupe de Nantes, j'avais fait une série musicale avec eux. Alors, je les avais suivis pendant leurs concerts et puis on avait fait des interviews. Et j'avais beaucoup aimé ça. Mais ça, c'était avant la science. Vous voyez, c'était ma vie avant la science à la radio. C'est quand je faisais beaucoup de séries sur des feuilletons, sur les chanteurs ou les musiciens. Et donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens et de passer du temps comme avec Triane. Voilà, et ça m'a beaucoup plu aussi, j'aimais beaucoup ça.
Quelles sont vos autres passions à part les sciences et la musique ?
Alors, moi, j'adore voyager, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup partir dans les pays étrangers et j'aime beaucoup partir en cargo. Vous savez, ces gros bateaux de commerce que vous voyez parfois dans les images ou dans les ports quand vous allez vous balader, ce sont ces énormes bateaux qui transportent sur eux des containers qui permettent d'aller dans le monde entier pour livrer les marchandises, la nourriture, les voitures, les ordinateurs. C'est grâce à ces gros bateaux qu'on peut justement recevoir toutes nos marchandises dans nos pays. Et donc, j'aime bien aller sur ces bateaux pour faire des voyages. Ça me plaît beaucoup parce qu'en général, il y a très peu de cabines pour accueillir des passagers. Donc, on est très peu nombreux. Et c'est un endroit où vous êtes pendant 15 jours ou 3 semaines sur la mer à regarder, pareil, le ciel étoilé le soir. Et c'est absolument magnifique. Et j'ai fait beaucoup de voyages en cargo et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup faire du sport aussi. Ça j'aime bien. J'aime bien courir, par exemple, le week-end. Ça, c'est important. Lire aussi, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Et puis passer du temps avec les amis, voilà, faire des bons repas, ça fait partie des choses que j'aime.
Portez-vous toujours des nœuds papillons ?
Non, c'est surtout pour les photos. Mais j'en porte rarement dans la vie, en réalité. Ça m'arrive de temps en temps, quand je dois m'habiller un petit peu, ça j'aime bien. Mais c'était pour les photos qu'on a fait pour France Inter. Mais est-ce que vous en portez, vous, des nœuds papillons ? Ça vous arrive ou pas ?
Non, jamais.
Ou bah si, quand on a fait le spectacle du CP, on avait tous un nœud papillon.
Des fois, mais...
Ah, mais oui. Ah, pour les mariages, c'est vrai, on peut en mettre aussi. Bah, c'est ce qui m'arrive, voilà. Mais du coup, j'en porte pas souvent, mais j'en ai porté pour les photos. Alors c'est pour ça que de temps en temps, on me voit avec un nœud papillon.
Pensez-vous que l'on doit s'inspirer d'autres pays pour sauver la planète ?
Je pense qu'on doit tous s'inspirer les uns les autres et on doit tous se bouger pour essayer de faire en sorte que notre bonne vieille planète qui existe depuis très très longtemps et bien avant nous soit toujours dans un état de préservation important, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la biodiversité animale. Il y a plein d'animaux qui disparaissent, il y a beaucoup d'insectes qui disparaissent par exemple comme les abeilles. Et évidemment il faut faire très attention, et il y a certains pays qui sont peut-être plus sensibilisés à la question que la France. Mais je pense qu'en France, on a une communauté de scientifiques qui nous apprennent beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui dans la nature et que nous devons écouter. Et je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment avec les jeunes, les marches pour le climat, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes allé vous balader récemment pour défendre la question climatique, avec vos parents peut-être. Mais en tout cas, les jeunes lycéens, par exemple, qui se bougent en ce moment, qui vont dans la rue pour dire qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, ça c'est vraiment très important. Et les scientifiques ont besoin de vous, ont besoin des plus jeunes. Et ça, ils me l'ont dit récemment au micro de La Tête au Carré. Ils m'ont dit que sans les jeunes, eh bien, c'est très difficile de se faire entendre, parce que les scientifiques, ils ont beau raconter tous les jours que le climat change, que les animaux disparaissent, eh bien, c'est très compliqué pour eux d'être entendus par les hommes politiques, par exemple. Et que là, depuis que les jeunes se sont mobilisés, eh bien, ça change tout. Alors, il y a l'exemple de la jeune Greta, par exemple, en Suède, que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous voyez un petit peu qui elle est ?
Oui.
Greta, ouais.
On avait fait une émission sur le réchauffement climatique. Et c'était moi qui l'avais fait.
Voilà. Et donc, tu avais parlé de Greta, peut-être ?
Oui.
Voilà. Alors, Greta, elle incarne justement cette jeunesse qui, dans le monde entier, se mobilise pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de bousculer les hommes politiques et leur dire que c'est pas normal qu'on ne nous écoute pas, qu'on n'écoute pas les hommes scientifiques, les chercheurs, pour justement prendre soin de notre planète. Donc, dans le monde entier, il y a cette mobilisation. Alors, je ne sais pas s'il y a des pays qui sont de meilleurs élèves que d'autres, mais c'est vrai que, en tout cas, dans la culture, par exemple, des pays scandinaves ou en Allemagne, on est très sensible à la question de l'environnement, de la nature. Et que ça, peut-être qu'en France, on le découvre depuis quelques années, quelques décennies. Mais je pense que c'est la force qui fait l'union, c'est l'union, pardon, qui fait la force. Et je pense que c'est très important que tous les pays se regroupent, et au travers des jeunes, pour essayer de défendre la cause de la planète.
Pourquoi avoir choisi le titre de La Tête au Carré pour l'émission de radio ?
Bah, c'est parce que je cherchais un titre pour l'émission. Et puis un jour, c'était pendant la finale de la Coupe du Monde de football, c'était en 2006, et moi, comme j'aime pas beaucoup de football, j'essayais de dormir le soir pour essayer de trouver le sommeil, parce que le lendemain, je travaillais tôt. Et l'Italie avait gagné, je crois, la demi-finale de la Coupe du Monde, Et donc, évidemment, les gens célébraient cette victoire dans la rue, juste en dessous de mes fenêtres. Et ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de leur mettre la tête au carré parce que ça m'agace, j'ai envie de me reposer et j'arrive pas. Et en pensant à ça, j'ai dit, tiens, la tête au carré, c'est un bon titre. Et comme je cherchais exactement un titre à ce moment-là, je me suis dit que j'allais le garder et que c'était amusant parce qu'il y avait le carré de l'hypoténuse, par exemple, dans le titre. Il y avait le fait de mettre la tête au carré comme parfois on peut imaginer la science. C'est-à-dire que la science, parfois, c'est un peu difficile et ça vous met presque la tête au carré. Donc, je trouvais que le titre était pas mal, qu'il était un peu rigolo. Et du coup, je l'ai gardé. Et depuis, voilà, c'est le titre de l'émission. Donc, je remercie les supporters de football parce que grâce à eux, j'ai trouvé un titre.
Vous qui avez vécu à Nancy, connaissez-vous Panier derrière Barine et le bar de chez Paulette ?
Alors, Panier derrière Barine, c'est ça, hein ? Mais oui, j'y suis allé. Bien sûr que je suis allé chez Paulette. Il y a très longtemps. Mais oui, 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 bien sûr, je m'en souviens. Absolument. J'avais fait un reportage là-bas. Et j'avais croisé des groupes de rock, effectivement, et Paulette, qui était là à l'époque, et qui est une institution maintenant. Paulette, c'est quelqu'un de très, très connu. Mais oui, bien sûr, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à chez Paulette, mais oui, oui, les souvenirs remontent. Mais vous connaissez, vous êtes déjà allé?
Oui, je connais, mais moi,
j'y habite.
Ouais. Moi, c'est mes parents qui se sont rencontrés là-bas.
Ah, mais c'est génial.
Et nous, quand on fait un tournoi de rugby, à la fin, on va souvent chez Paulette.
Et donc, chez Paulette, ça existe toujours, vous me confirmez?
Et Paulette, je crois qu'elle
va fêter ses 94 ans, Paulette.
Ah là là, c'est génial.
On y va tous les deux semaines, elle présente quelque chose. Et du coup, j'y vais tout le jour, tout le temps, tout le temps.
Les habitués.
Ouais.
Et il y a des bons groupes de musique là-bas?
Oui, très bon.
Parmi les scientifiques que vous avez rencontrés, lequel préférez-vous?
Ah, ça c'est difficile comme question. Hein. Ça c'est très difficile comme question parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Certains qui sont moins connus que d'autres, évidemment. Donc si je vous donne leur nom, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Mais est-ce que vous connaissez des scientifiques? Est-ce qu'il y a un scientifique que vous connaissez, que vous aimez bien? Est-ce que vous pourriez m'en citer un?
Alors... Einstein.
Ouais.
Thomas Pesquet.
Ouais, d'accord.
Galilée, j'entends.
Voilà, donc vous connaissez des morts et des vivants. Voilà. Donc moi, Einstein, évidemment, je n'ai pas pu le rencontrer parce que je n'étais pas né quand il est décédé. Thomas Pesquet, ça, c'est plus facile pour moi parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de ma génération. Donc je le connais. Est-ce que vous connaissez Hubert Reeves? Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose?
Un petit peu.
Hubert Reeves, c'est un monsieur qui s'intéresse aux étoiles, qui est astrophysicien et qui a une grande barbe blanche avec un petit accent du Canada et qui est très gentil, qui est très très populaire en France. C'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup et c'est vrai que je le reçois souvent dans l'émission et que je l'aime bien. Hubert Reeves, c'est quelqu'un qui sait raconter justement les planètes et les étoiles d'une façon incroyable et je l'aime beaucoup. Mais j'ai rencontré des gens comme André Braille, qui était un autre astrophysicien que j'aimais beaucoup parce que lui en plus, il nous faisait rire quand il racontait ses histoires et ça c'était très drôle. Et un scientifique qui vous raconte les origines de l'univers tout en vous faisant rire, eh bien, ça c'est formidable et vous retenez beaucoup mieux quand vous riez en plus.
Comment ça marche techniquement la radio?
Oh, bah alors ça, c'est presque une colle que vous me posez. La radio, ce sont des ondes, en fait, qui sont envoyées. Alors, vous avez le micro de l'animateur qui est en studio. Et puis, tout ça, ça passe par une grosse machine, qui est la console avec les techniciens. Et puis ensuite, les ondes sont envoyées à un relais hertzien, qui ensuite est une sorte de parapluie. Vous imaginez ça comme une sorte de parapluie et qui va ensuite inonder toute une région avec les sons en fait qui sont transformés et qui vous permettent d'entendre la radio. Mais alors ça, vous voyez, c'est une question qui est très précise et qui est difficile à laquelle je ne peux pas vous répondre exactement aujourd'hui puisqu'il aurait fallu que j'étudie exactement le problème pour pouvoir vous répondre avec exactitude. Donc ma réponse, elle est très vague et surtout, je vous conseille, vous, d'aller vous renseigner pour savoir exactement comment ça se passe parce que c'est une excellente question et d'ailleurs, ça me fait dire que moi-même, je devrais me renseigner pour en savoir un petit peu plus. Donc finalement, vous m'avez posé une colle et c'est une très bonne chose parce que du coup, je vais aller ensuite exactement me renseigner pour voir comment ça fonctionne.
Merci beaucoup Mathieu Vidard. La tête au carré sur France Inter du lundi au vendredi de 14h à 15h et puis sur France 5 aussi.
Merci beaucoup hein, les enfants, merci beaucoup à vous et puis j'espère que parmi vous, il y aura de futurs scientifiques. À bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Mathieu Vidard, l'animateur de La Tête au Carré sur France Inter et de Sciences Grand Format sur France 5, interrogé par les élèves de l'école de Panier derrière Barine à l'occasion de la semaine de la presse à l'école sur Radio Déclic.
Et voilà, nous sommes donc dans les studios, toujours avec les 5 enfants de Fougle-Luton. Et nous allons rapidement leur demander ce qu'ils ont pensé de l'émission, ce qui a le plus accroché leur attention. Qui veut bien commencer ? Est-ce que quelqu'un a été accroché par quelque chose qu'a dit Mathieu ? Ouais. Alors Luc, t'as entendu quelque chose qui a fait résonance en toi ? Dans ce que Mathieu a dit ?
Bah, quand il parlait de la science, et aussi quand il parlait des planètes.
D'accord.
Moi aussi, j'aime bien ça.
D'accord.
Ça ne me passionne pas énormément, mais j'aime bien ça.
D'accord. Tu as vu en ce moment quelle lune superbe nous avons dans le ciel le soir ?
Oui.
Il y a un gros disque aujourd'hui. Oui, vas-y, à toi alors, Emma.
La science, j'aime bien.
Oui. Donc ça va t'accrocher ce qu'il a dit sur la science.
Ouais. Oui.
T'as déjà vu une de ces émissions ?
Non.
Oh, oui. C'est pas grave, hein. Et Luna ?
Moi non plus.
Toi non plus, oui. Et par contre, est-ce que tu as retenu quelque chose qui a attiré ton attention ou alors que tu n'as pas compris peut-être ?
J'ai trouvé que les enfants ils posaient des questions, pas beaucoup, mais quand même. Il y avait des questions que c'était un peu pas dur, mais que...
Un peu bavard quand même, le fameux Mathieu, hein ? Qu'est-ce qu'il est bavard ? Oui. Eh bien, Elena ?
La science.
Oui. Et est-ce que dans les noms de scientifiques, tu as entendu quelqu'un que tu as déjà étudié, vu, lu ?
Non.
Hubert Reeves, ça ne te dit rien du tout ?
Non.
Ah ouais ? Et toi, alors, Dorian ?
Moi, j'ai bien aimé quand il parlait des planètes.
Quand il parlait des planètes, ok. Oui, oui. Tu t'en connais une planète ?
Mars.
Oui, il y a Mars, bien sûr. Oui, oui, bon, alors de temps en temps, effectivement, à la télé, on a quand même de superbes émissions sur les planètes. Et justement, quelquefois, Hubert Reeves nous permet de voyager. Voilà, merci beaucoup les enfants de Fougle-Luton. Nous allons nous quitter. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Déclic au 87.723 et 89.6. C'est la fin de l'émission Cache-Cache Micro et vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Déclic, www.radiodéclic.fr, dans la rubrique Cache-Cache Micro. Bye bye à tous.
Vous êtes toujours sur les ondes primitives, journée spéciale 55e congrès ICEM Pédagogie Freinet, rediffusion d'émissions réalisées initialement sur Déclic FM.
Déclic. On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité.
C'est le pire reporter de l'ordinaire.
Journaliste et critique, parfois t'as raison.
Quand je deviendrai journaliste,
la semaine de la presse et des médias à l'école, c'est sur Radio Déclic.
Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes?
Aujourd'hui, des élèves de CM1, CM2 de l'école de Villers-Saint-Étienne interviewent l'essayiste, historienne et journaliste Laurence Decocq à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école.
Bonjour, nous sommes les élèves de CM1, CM2 de Villers-Saint-Étienne de l'école de Sylvain Pierson. Nous allons vous poser des questions. Déjà, est-ce que vous allez bien ?
Alors, je vais bien. C'est un peu difficile en ce moment avec le Covid à Paris parce que vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, donc c'est compliqué. Mais pour l'instant, tout va bien.
Quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, quand j'étais à l'école, comme souvent les élèves, je voulais être une maîtresse d'école. Je jouais beaucoup avec mes sœurs, j'ai beaucoup de frères et sœurs, donc je jouais beaucoup avec eux pour jouer à la maîtresse, voilà. Et ensuite, quand j'étais plus grande, quand je suis entrée au lycée, que j'ai passé mon bac, je me suis dit que j'allais m'inscrire à l'université en faculté d'histoire, pas tellement pour être prof, pour être enseignante, mais parce que je me suis dit c'est ce qui va me permettre de mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Et voilà, donc j'ai fait des études d'histoire et puis petit à petit, j'ai eu envie d'enseigner. Donc je suis devenue historienne et enseignante pour les grands, pour les très grands, au lycée et à l'université.
La France respecte l'article 28 de la CIDE. Puisque l'enseignement primaire est gratuit. Obligatoire depuis Jules Ferry. Pour l'enseignement secondaire, cela date du Front Populaire. Quant à l'enseignement supérieur, il n'accepte pas que les meilleurs.
Pourquoi avez-vous choisi l'histoire et qu'est-ce qui vous motive ?
En fait, l'histoire, il y a des gens qui disent que ça sert à rien parce que c'est passé, parce que c'est des dates, tout ça, c'est pénible, il faut apprendre par cœur. Mais pour moi, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est aussi ce qui permet de comprendre d'où on vient, de comprendre comment celles et ceux qui ont vécu avant nous, ce qu'ils ont fait, quelles ont été leurs actions, comment ils ont mangé, vécu, aimé, fait la guerre, lutté. Et en fait, je regarde un peu l'histoire comme un documentaire géant sur le passé. Et moi, ça me permet du coup de regarder le présent autrement. Comme si, en fait, dans ce présent-là, il y avait les traces de toutes celles et tous ceux qui ont vécu avant nous. Et j'aime bien cette idée parce que je trouve que ça nous met dans la suite de milliards de personnes. Et c'est une belle idée, en fait, de vivre aussi avec tous ces gens-là d'avant.
Depuis combien de temps enseignez-vous l'histoire ?
Oh là là, ça fait longtemps. Alors moi, j'ai été une très jeune enseignante parce que je suis devenue enseignante, j'avais 23 ans. Donc en fait, j'étais vraiment toute jeune. Et ben là, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis enseignante. Alors j'ai changé, hein. J'étais dans un collège, comme souvent, on commence souvent dans les collèges. J'ai jamais été à l'école primaire, par contre, parce que vos professeurs à l'école primaire, eux, ils enseignent toutes les matières. Tandis que moi, je suis que enseignante en histoire et en géographie. Donc, j'ai jamais enseigné avec les élèves de l'école primaire. J'étais en collège et puis en lycée, puis à l'université. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans, ça fait longtemps maintenant.
Opération Overlord, débarquement sur les plages de Saint-Tropez, d'où les gendarmes de Saint-Tropez, Cruchot, Louis de Funès. J'ai fait l'impasse.
Alors, la guerre froide, je dirais que petit A, c'était en hiver. Petit B, c'était aux alentours de 0 degré Celsius. Et en conclusion, je dirais qu'ils auraient mieux fait de porter des doudounes.
Yalta moins X plus 2 facteur de Eisenhower égale Austerlitz à la racine carrée de la ligne Maginot. J'ai révisé que les maths.
L'endettement russe à la fin du XVIIe siècle.
Je vous écoute.
Alors petit 1, carte bleue ou chèque ?
Quelle est la chose que vous préférez le plus en histoire ?
Ah, ce que je préfère le plus en histoire, c'est faire l'histoire de ceux dont on parle le moins souvent. Par exemple, moi, l'histoire des rois, l'histoire de Charlemagne, de Vercingétorix, tout ça, ça m'intéresse pas énormément parce que, ou de Napoléon, ça m'intéresse pas énormément parce que, en fait, beaucoup en parlent. Très, très souvent. Mais il y a plein de gens dont on parle très peu. On parle très peu des femmes, par exemple. Hein, c'est toujours des hommes, les grands héros, les Napoléon, les Charlemagne, tout ça, c'est des hommes. Clovis. Donc moi, j'aime bien parler des femmes et puis j'aime bien parler des gens un peu comme vous et moi, mais dans le passé. C'est des gens qu'on pourrait appeler des gens un peu ordinaires, quoi. Et donc, j'aime bien raconter ce qu'ils ont fait, comment ils travaillaient, ce qu'ils ressentaient, comment ils se sont parfois battus pour avoir plus de droits. J'aime bien aussi l'histoire des enfants. J'aime bien essayer de voir comment les enfants vivaient il y a très longtemps. L'histoire de l'école aussi. Comment est-ce qu'on allait à l'école? Qu'est-ce qu'on y apprenait? Quelles étaient les relations avec le professeur? Est-ce qu'il y avait du chahut? Voilà, j'aime bien les histoires que tout le monde ne raconte pas, en fait. De qui je pourrais vous parler d'une femme qui a eu un rôle important qui n'est pas très connu? Bah, par exemple, je pourrais vous parler d'une femme au 19e siècle, donc ça fait un siècle et demi, qui s'appelait Pauline Kergomar. Eh ben, elle s'appelait Pauline aussi, Kergomar, et c'est en fait la femme qui a inventé l'école maternelle. Vous savez, souvent on dit toujours c'est Jules Ferry qui a inventé l'école, encore un monsieur quoi. Mais derrière Jules Ferry, il y avait une dame qui était très préoccupée des enfants, notamment des enfants dans les rues, parce qu'à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants abandonnés. Il faut imaginer qu'on se promenait dans les rues et on croisait des enfants qui étaient là, sans parents, complètement abandonnés. Et Pauline Kergomar s'est dit, mais ces enfants-là, il faut les recueillir et il faut inventer une école pour eux et aussi pour les tout-petits, qui les préparent en fait à aller à l'école pour les plus grands. Et au début, ça s'appelait des asiles. Un asile, c'est bizarre comme nom. Hein. Aujourd'hui, les asiles, on dit plutôt ça pour les fous, mais à l'époque, on utilisait ça pour des établissements qui accueillaient des enfants très très pauvres. Et ensuite, Pauline Kergomar, elle a regardé un petit peu ses tout petits enfants, elle s'est dit, mais en fait, ils savent faire des choses, il faut leur apprendre à faire des choses. Et du coup, elle a dit, ben en fait, on va transformer ça en petite école. Et elle a appelé ça les maternelles, et c'est la dame qui a inventé les maternelles.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer?
Pourquoi avez-vous créé ce blog sur Mediapart?
Alors, tu veux parler du blog où j'ai fait dessiner les enfants pendant le confinement? C'est celui-là, parce que j'en ai plusieurs. Quand il y a eu le confinement, il y a un an, vous devez vous en souvenir, on était tous complètement surpris et vraiment, c'est un truc qui était absolument incroyable, extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est bien extraordinaire, mais ça veut dire que c'est pas ordinaire. Et donc, c'était tellement pas ordinaire qu'en fait, j'ai pensé aux enfants et je me suis dit, mais comment les enfants comme vous, hein, vont-ils vivre ce truc-là? Parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai jamais vécu un truc pareil. Mon fils, quand il était enfant, il a jamais vécu un truc pareil. Et je me suis dit, ça va être une expérience totalement incroyable. Et comme j'ai eu envie de savoir, je me suis dit, tiens, je vais leur écrire une lettre. Et je vous ai dit que je travaillais sur l'école et sur l'histoire de l'école. Hein. Et en fait, dans l'histoire de l'école, il y a un instituteur qui est très spécial, qui s'appelait Célestin Freinet, qui a vécu il y a un siècle. Et cet instituteur, je le lis beaucoup, je regarde beaucoup ce qu'il a fait, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il travaillait avec des enfants qui étaient très en difficulté, qui avaient des problèmes, qui n'arrivaient pas à apprendre à lire, tout ça. Et j'aime la manière avec laquelle il s'adressait aux enfants. Et du coup, j'ai écrit cette lettre un peu comme si c'était lui qui l'écrivait. Et comme Célestin Freinet demandait aux enfants de dessiner ou d'écrire tout ce qu'ils voulaient, ben j'ai demandé la même chose en fait. Voilà. Donc j'ai recueilli des récits. Peut-être certains d'entre vous y ont participé d'ailleurs, je sais pas. Des récits, des dessins. Et comme je trouvais ça super chouette et super beau, Je voulais que tout le monde puisse les voir. C'est pour ça que je l'ai mis sur un journal, sur un blog qui est quand même assez fréquenté.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Ben d'abord, ça m'a fait du bien aussi, parce que j'en recevais plusieurs par jour, et moi aussi j'étais confinée. Donc j'avais l'impression de dialoguer avec, de parler avec tous les enfants de tout le pays. Donc déjà ça m'a fait chaud au cœur, moi, ça m'a un peu réchauffée, ça a apporté de la lumière un petit peu dans mes journées. Et puis ensuite, ça m'a permis de découvrir un petit peu comment les enfants vivaient ce confinement. Et comment y continuer à rêver, à avoir plein d'idées, à rester heureux, à avoir plein de rêves. Voilà, et donc ça m'a fait un peu entrer dans l'univers des enfants, c'était chouette.
Ohé, enfants d'ici, ohé, enfants d'ailleurs, ohé, vous, enfants confinés. Voici quelques textes libres récoltés par Laurence de Coq sur le site de Mediapart. Ils sont lus, dans Cache-Cache Microbe, par Barbara. Mais la récolte n'est pas terminée. Elle va durer tout le temps de ce confinement étrange.
Que pensez-vous du journal Mediapart ? Est-ce un bon journal ?
Oui, moi je trouve que c'est un bon journal. Je trouve que c'est un journal très sérieux, qui fait des enquêtes vraiment honnêtes et qui n'est pas un journal à scandale, comme parfois on peut en voir. J'aime bien le journal, puis il y a de tout. Il y a à la fois des articles de journalistes qui sont des journalistes professionnels, et puis il y a aussi des gens comme moi qui peuvent écrire. Donc c'est aussi un journal qui donne la parole à plein de monde et aux enfants aussi du coup. Et ça j'aime bien, je trouve que ça fait partie du rôle aussi de la presse, d'être un petit peu, comment dire, le micro de ce qui se passe dans la société. Donc j'aime beaucoup ce journal.
Il y a une anecdote intéressante que m'a raconté leur maîtresse. Ils ont fait des recherches sur vous via le moteur de recherche Quant Junior, hein, qui est, je crois que c'est un partenariat entre l'éducation nationale et du coup le moteur de recherche français. On ne trouve aucune information sur vous ni sur Mediapart.
Ah ouais, ok.
Du coup, ils ont un peu galéré à trouver des infos sur vous.
Mais ça va changer parce que maintenant, je commence à écrire un peu pour les enfants, donc je pense que ça va être référencé.
Pourquoi avez-vous choisi Cache-Cache Micro pendant le confinement ?
En fait, c'est pas moi qui ai choisi Cache-Cache Micro, c'est Cache-Cache Micro qui m'a choisi. Moi, je vous connaissais pas. Et en fait, c'est Christine, je crois elle s'appelle, de Cache-Cache Micro, qui a découvert le blog sur Mediapart et qui m'a écrit pour me demander si elle pouvait lire les textes et les mettre en musique sur Radio Déclic, sur Cache-Cache Micro. Et donc, j'ai dit oui, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, en fait.
Actuellement, que faites-vous ?
Ben, actuellement, je termine un livre d'histoire pour les enfants, figurez-vous. Et notamment, c'est un livre sur l'histoire de la découverte de l'Amérique. Voilà ce que je fais. Exactement ça aujourd'hui.
Avez-vous des projets ?
Alors oui, j'ai plein de projets. D'abord, j'ai un autre livre pour les grands qui va paraître à la rentrée prochaine, qui est un livre sur l'école. J'ai un autre livre pour les enfants aussi, après la découverte de l'Amérique, je vais travailler sur l'histoire de l'école, une aventure autour de l'histoire de l'école. J'en ai toujours plein, beaucoup trop des projets. Et puis je continue à écrire des articles, et puis aussi je fais mes cours pour mes étudiants.
Je me retrouve au milieu de nulle part. Je leur ai promis que j'allais revenir. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je suis revenue trop tard. Des immeubles en feu, des corps à terre. La guerre, nous sommes en guerre, dis-je en pleurant.
Nous sommes en guerre.
J'aimerais pouvoir retourner en arrière, pouvoir changer ce que j'ai fait et pouvoir dire au revoir à ceux que j'aimais, mes amis, ma famille, ma chienne Lily. On m'avait dit, fais attention.
Et vous, avez-vous des questions à nous poser ?
Eh bien, comment ça va, vous ? Comment vous allez ?
Bien.
Bien ? Et vous, est-ce que vous aimez faire de l'histoire ?
Oui.
Oui.
Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans l'histoire, cette année ?
Les chevaliers, les princesses.
Non.
Le 19e siècle.
On travaille sur les Louis,
sur Charles X, sur Louis-Philippe, sur Louis XVIII et la Révolution française.
Ah ouais, donc vous travaillez beaucoup sur les rois. Vous savez ce qu'il faudrait demander à votre maîtresse ? Vous pourriez dire à la maîtresse, madame et tous les gens à l'époque de ces rois, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là ? Comment ils vivaient, les gens à l'époque des rois ? À l'époque de Louis-Philippe, à l'époque de Louis XVI, à l'époque de tous ces rois-là que vous venez de me donner, il faudrait demander ce qu'ils faisaient, les gens, comment ils vivaient. Ce serait intéressant de le savoir.
Bah, nous, en ce moment, à l'école, en histoire, on travaille sur le Rhône.
Ah, le Rhône, alors c'est en géographie peut-être, non ?
On travaille sur Rome.
Ah, sur Rome ? Ah, c'est pas pareil. Ah, ben c'est bien Rome alors, sur l'Empire romain, sur la fondation de Rome, et puis ensuite sur les Romains, c'est ça ? Ah, ça va être chouette ça. Ça va être chouette, tu vas voir.
En tout cas, merci beaucoup Laurence Decoq. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à ces peut-être futurs historiens ou futurs journalistes ?
Oui, je peux vous donner un conseil. N'oubliez jamais, que les gens comme nous, les gens comme vous, ont eu un rôle dans l'histoire et ils ont un rôle dans le présent. Il ne faut jamais laisser les gens décider pour nous-mêmes. Et en fait, faire de l'histoire, ça permet de voir à quoi on sert. Et en fait, on peut faire plein de choses dans le monde et même je suis sûre qu'on peut changer le monde. Voilà, gardez ça dans un petit coin de votre tête. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
C'était l'interview de Laurence Decoq, essayiste, historienne et journaliste, interviewée par les élèves de CM1 CM2 de l'école de Villers-Saint-Étienne. Réécoutez toutes les chroniques et les interviews réalisées pendant cette semaine de la presse et des médias à l'école sur le site www.radiodeclic.fr.
On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité.
C'est le pire reporter de l'ordinaire.
Journaliste et critique, parfois t'as raison.
Quand je deviendrai journaliste.